Jean 11. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, nous voulons, avec Thomas, tomber à tes pieds et reconnaître que tu es notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait il y a 2000 ans et pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, il y a 22 ans bientôt. Seigneur, je t'adore pour ta résurrection et pour la mienne. Je te rends grâce pour ta résurrection et pour cette vie nouvelle que tu as semée en moi, Seigneur. Il y a 22 ans. Seigneur Jésus, lorsque ton esprit m'a saisi, lorsque ton esprit m'a saisi et m'a amené à abandonner ma vie entre tes mains, ne me confiant plus en aucun effort personnel, mais seulement dans ton œuvre à la croix pour moi, Seigneur. Seigneur, je suis entré dans l'éternité. C'est ce que ta parole me dit. Seigneur, je veux te demander de venir manifester ta présence par la puissance de ton esprit ce matin, en appliquant ces paroles à nos cœurs, à nos vies. Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es la vie. Viens, Seigneur, donner vie à ceux ici ce matin qui sont morts spirituellement. Ceux ici ce matin, Seigneur, qui sont vivants et morts à la fois. Ceux, Seigneur, que tu as commencé à attirer à toi et qui goûtent cette amertume de la vie de plus en plus, de la vie sans toi, Seigneur. Viens leur donner vie. Je t'en supplie. Viens leur donner ton esprit ce matin en ouvrant, Seigneur, les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent l'Évangile. Qu'ils saisissent la croix, Seigneur. Qu'ils saisissent que tu es la résurrection et la vie. Et Père, pour ceux et celles qui ont reçu ton esprit, mais qui l'ont attristé, voire éteint, qui marchent, Seigneur, selon le régime de leur ancienne vie. Oh, viens faire une œuvre de réveil dans leur cœur ce matin, je t'en prie. Et que ton esprit soit vie et paix en eux, Seigneur. Donne-leur de pleurer sur leurs péchés et de se tourner vers toi pour saisir cette grâce abondante, surabondante, Seigneur, qui couvre toutes les fautes, tous les péchés, pour te saisir, toi. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on souligne la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, c'est le recommencement. La résurrection, c'est la vie nouvelle. C'est un nouveau départ. J'ai trouvé ça intéressant. Martin Luther, le grand réformateur du 16e siècle, réformateur protestant, a dit « Notre Seigneur a inscrit la résurrection non seulement dans des livres, mais dans chaque feuille qui naît au printemps. » Et on est bien placé au Québec pour comprendre ce que c'est la résurrection, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a pris une image d'un crocus qui sort, qui naît au printemps, qui vit au printemps. Nous comprenons, nous saisissons cette image que la résurrection, c'est le début de la vie. C'est le début d'une nouvelle vie, un nouveau départ. Je pense que c'est l'image la plus forte qu'on peut donner pour donner de l'espoir, pour donner de l'espérance à tous ceux et celles qui réalisent qu'ils ont besoin de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ. Ce matin, je vais parler de la résurrection et je sais que certains d'entre vous, vous êtes sceptiques. C'est du domaine de la foi, ça relève du domaine de la foi, je le conçois, je comprends ça. De tout temps, il y a des gens qui ont été sceptiques à l'égard de la résurrection. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Du temps de Jésus, le peuple juif lui-même était divisé. Il y avait une grande majorité des Juifs qui croyaient dans la résurrection. Je ne parle pas de la résurrection de Jésus, là. Je parle d'une vie après la mort, une résurrection après la mort, une résurrection un jour devant Dieu. Une grande majorité des Juifs croyaient cela, mais il y avait une partie des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection. De tout temps, ça a été un sujet de controverse. Il y a des théologiens qui ont essayé de contourner cette difficulté-là, de se réconcilier avec cet aspect qui demande la foi en disant, bien, la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament, c'était une résurrection spirituelle. Il n'est pas vraiment ressuscité avec son corps. Il y a un esprit et il est ressuscité spirituellement. Et le but de ça, c'était à quelque part de pouvoir se réconcilier avec quelque chose qui serait peut-être plus facile à croire. Bien honnêtement, c'est ridicule d'essayer de faire ça lorsqu'on lit le Nouveau Testament parce que les témoins oculaires de l'époque, eux sont clairs dans leur témoignage. Je peux les croire, je peux ne pas les croire, mais ce qu'ils déclarent est très clair. Ils affirment avoir vu de leurs yeux, et ils ont été des centaines à avoir vu de leurs yeux et touché un Jésus qui était ressuscité corporellement, avec un corps nouveau, un corps différent, un corps glorifié, mais un Jésus qui était ressuscité corporellement. Alors, la résurrection de Christ, si vous devez en venir à la foi, c'est une question cruciale avec laquelle vous allez devoir négocier, vous allez devoir faire des lectures là-dessus pour régler cette question-là. Et en définitive, ça restera un pas de foi. Mais ceux ici ce matin qui disent que la résurrection n'existe pas, ceux peut-être ici ce matin qui disent que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a rien après la mort, vous marchez par la foi. C'est votre confession de foi. Chacun d'entre nous, on a une confession de foi puisqu'on est devant la grande incertitude. C'est par la foi que nous traversons. C'est par la foi que nous affrontons la mort. Et chacun d'entre nous, nous avons notre confession de foi. Si vous devez venir à la foi en Jésus-Christ, vous allez devoir adresser cette question-là sérieusement. Et il y a de la bonne littérature à lire sur la question. On peut vous en recommander. C'est une question importante. Les chrétiens ont débattu cette question-là depuis des siècles. Et il y a moyen de faire de la bonne lecture pour voir les évidences historiques et régler cette question-là pour avoir une conviction ferme. Vous pourrez venir nous voir après. Ça va nous faire un plaisir de vous recommander d'excellentes lectures sur la question. Un auteur que j'apprécie énormément, c'est Craig Blomberg. Craig Blomberg a écrit « Historical Reliability of the Gospels ». Et M. Blomberg va venir à Montréal en février prochain. Ce n'est pas demain matin, mais en février prochain, il va venir à Montréal. Puis probablement qu'il va venir à l'Église de l'Espoir ici, puisque c'est sur mon invitation que Sam Beck l'a invité. Mais il y a de bonnes lectures à faire. Et je n'ai pas l'intention ce matin de faire toute ma prédication sur une défense de la résurrection. J'aurais pu le faire, certaines années on le fait. Ce n'est pas ça que je voulais faire ce matin avec vous, mais je veux vous rassurer en même temps, il y a de bonnes lectures à faire et vous devrez adresser cette question-là. Ce matin, ce que je veux voir avec vous, c'est plutôt qu'est-ce que Christ nous apporte à travers la résurrection? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ apporte dans nos vies? Qu'est-ce que cela vient changer dans nos vies? On a intitulé le message « Un second souffle ». Un souffle nouveau, un deuxième respire, un nouveau départ, une nouvelle vie. Comme je l'ai dit, la résurrection est certainement l'image la plus forte d'un nouveau départ. Écoutez bien ceci. Par sa résurrection, Jésus-Christ offre à tous les hommes un second souffle, une nouvelle vie, un nouveau départ, dans tous les sens du terme. Dans le sens spirituel, dans le sens physique, dans le sens psychologique, dans vos relations, dans tous les sens du terme. Il vous offre un second souffle qui peut commencer ici, maintenant et aujourd'hui et se poursuivre jusque dans l'éternité. Voilà ce que Jésus-Christ offre aux hommes par sa résurrection. Un nouveau départ qui peut commencer maintenant à être une vie nouvelle en vous, commencer maintenant, ici, aujourd'hui et se poursuivre jusque dans l'éternité. Je vous donne le contexte du passage qu'on regarde ensemble ce matin. C'est avant la crucifixion, c'est avant la résurrection de Jésus. Mais Jésus va parler de la résurrection et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se penche sur ce passage. Dans Jean 11, simplement vous donner le contexte, Jésus a trois amis qui sont chers à son cœur. Lazare, Marthe et Marie, trois frères et sœurs, ce sont des proches de Jésus. Jésus a un ministère public depuis quelques années maintenant, et donc il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui s'attachent à lui, il y a des gens même qui le servent, puisqu'il y avait un ministère de prédicateur itinérant. Ils le reçoivent, ils l'accompagnent, ils l'aident, ils veulent entendre ses enseignements. De plus en plus, ils découvrent qui il est et ils croient en lui. Ce sont des amis intimes de Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Jésus est près d'eux, et puis Marthe va nous révéler ici dans le passage de Jean qu'il est particulièrement près même de Lazare. Lazare est un ami intime de Jésus. Maintenant, dans ce passage, Jean nous apprend que Lazare est malade. Il est très, très malade. Il est près de mourir. Jésus est au loin, pour autant que je peux comprendre, Jésus est à peu près à 150 kilomètres. De la ville où il se trouve. Et donc, dès que les sœurs voient que Lazare est gravement malade, ils envoient des proches, des messagers auprès de Jésus pour lui dire « Viens-t'en! » Parce qu'ils ont vu Jésus faire tellement de miracles qu'ils ont cette conviction dans leur cœur que si Jésus peut arriver, attends, notre frère va vivre, Jésus l'aime, il va juste étendre la main, il va prononcer une parole, la vie va revenir dans son corps, et il va guérir. Et donc, ils envoient des messagers rapidement auprès de Jésus pour lui demander de venir et de sauver leur frère. Maintenant, Jésus, dans les évangiles, lorsqu'on lit Matthieu, Marc, Luc, Jean, on voit à plusieurs reprises que Jésus, il y avait des moments où il y avait des connaissances surnaturelles. C'est Jésus. L'Esprit est sur lui, il est le Fils de Dieu, et il y a des choses qu'il connaît surnaturellement. Jésus sait, à ce moment-là, que cet événement, cette circonstance, a un sens plus grand qu'une maladie et une guérison. Ce n'est pas dans tous les cas où Jésus a opéré des miracles et il a guéri des gens ou il a sauvé des gens. Ce n'est pas dans tous les cas que Jésus nous dit qu'il y avait un sens à ça, un message qui devait passer. Bien sûr, à chaque fois, ça nous parle de la grandeur de Christ, de la grandeur de sa personne. Mais dans ce cas-là, Dieu veut faire quelque chose de particulier à travers cet événement. Regardez avec moi dans Jean 11, le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus nous dit « Cette maladie-là a un sens. Dieu veut passer un message à travers cette maladie. » Jésus n'est pas en train de dire que Lazare ne va pas mourir, mais il est en train de dire que sa mort ne sera pas définitive. Parce que Jésus sait qu'il va arriver là-bas, Lazare sera mort et Jésus va faire un miracle. Et il dit, cette chose-là devait arriver avec un but, avec une raison. Parce qu'il y a un message qui est là. Le plus important dans le passage qu'on va regarder, ce n'est pas le miracle que Jésus fait, ce n'est pas de voir que Jésus peut donner la vie autant que le message qu'il veut donner à travers ça. C'est le sens que Jésus donne à cette situation. Jésus dit ici que cette maladie doit servir à nous faire connaître qui il est, nous révéler sa personne. Dans le verset 4, il dit « Cette maladie est pour la gloire de Dieu » afin que le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui-même, soit glorifié par elle. La maladie qui est là dans la vie de Lazare, la mort de Lazare, le miracle qui va se produire, doit servir comme un outil de révélation pour nous faire voir la gloire de Dieu à travers la personne de Christ et nous faire saisir qui est Jésus-Christ, véritablement. Au verset 42, Jésus va dire ça à nouveau. Il va déclarer à nouveau que ce miracle qu'il va opérer doit manifester la gloire de Dieu et nous faire connaître qui est Jésus-Christ. Ainsi, tout le récit, tout le passage qu'on a ici sert à nous faire saisir qui est Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Jésus va arriver, le mort est dans le sépulcre depuis 4 jours. Il y a quelque chose d'étrange dans le passage et puis Jean prend le temps de nous donner vraiment plein d'informations pour s'assurer qu'on ne se méprenne pas sur ce que Jésus est en train de faire. Au verset 5, il est écrit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » C'est assez étrange. Il nous dit d'une part, Jésus les aimait. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû se coller un taxi, sauter dans un taxi, descendre à dos de chameau à toute vitesse. Boum! Aller faire un miracle. Ils les aiment. Ils sont en train de souffrir. Mais Jean nous dit, Jésus les aimait. Puis il décide d'installer sa tente pour 2 jours de plus. Et lorsqu'on lit sur l'histoire et la culture de l'époque, ça nous aide un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il doit faire. Et il sait que Lazare doit véritablement mourir. Maintenant, les Juifs de l'époque, et c'était dans la culture de l'époque, les Juifs croyaient dans avaient cette croyance que lorsqu'une personne mourait, l'âme de la personne restait au-dessus du corps. Pendant un certain temps, au cas où le corps ne serait pas vraiment mort. Bon, aujourd'hui, on parlerait de personnes qui ont été près de la mort, hein, ils ont eu comme une mort clinique, douf, ils sont revenus. Bon, ben, si vous aviez eu des Juifs de l'époque qui étaient là, ils auraient dit « Oh, l'âme est rentrée dans le corps ». Vous voyez? Et cette croyance voulait que l'âme reste au-dessus du corps, plane au-dessus du corps, jusqu'à ce que le corps physique, la chair commence à se corrompre. Et à ce moment-là, l'âme abandonnait le corps et partait. C'est la croyance populaire. Jésus veut s'assurer que ce qu'il va faire va être bien compris. Et si Jésus est arrivé quelques heures après le décès de Lazare, potentiellement, possiblement, que les gens auraient dit, comme certains veulent dire encore même de sa propre résurrection, qu'il n'était pas vraiment mort en réalité. Puis Jésus savait simplement cela. Jésus décide d'attendre. Jésus décide d'attendre. Lazare meurt. Il est mis dans le tombeau. Et Jésus va arriver 4 jours plus tard. Lorsqu'il arrive là-bas à Béthanie, lorsqu'il arrive au village, Marie puis Marthe sont en train de pleurer. C'était pour autant qu'on sache des gens qui avaient quand même pas mal de moyens. Il y a des gens qui sont partis de Jérusalem. À l'époque, il y avait des pleureuses professionnelles. C'était de coutume. Littéralement, on payait des femmes qui savaient comment pleurer, qui venaient se joindre à la famille et qui venaient pleurer. Il y a une foule, d'accord? Il y a des amis qui sont partis de Jérusalem. Jérusalem n'était pas tellement loin. Ils sont descendus, ils sont là. Et il y a beaucoup de gens qui sont là. Marie, Marthe et Lazare étaient des gens qui avaient des moyens, ils étaient des gens connus. Il y a une foule qui est présente. Et lorsque Jésus arrive à Béthanie, Marie est en train de pleurer, Marthe est en train de pleurer. Ils sont en train de vivre leur deuil. Et tout de suite, lorsque Marthe voit Jésus arriver, elle court vers lui au verset 21 et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Personnellement, je ne vois pas vraiment des reproches dans ça, autant que de la souffrance et de la tristesse et de la peine. Marthe connaissait Jésus pour les miracles qu'il faisait. Elle croyait en lui. Elle l'avait vu à plusieurs reprises opérer des miracles, faire des choses extraordinaires. Elle avait donc cette conviction dans son cœur que si Jésus avait été arrivé à temps, son frère ne serait pas mort. Et il y a une discussion qui commence entre Marthe et Jésus et ils vont commencer à discuter ensemble. Voyez-vous, Marthe est une femme de foi. Elle fait plein de déclarations. Dans les quelques versets qui suivent, il y a plein de choses qui sont implicites sur ce que cette femme croit de Jésus. Elle a la foi en Jésus, elle vient de le dire. Si tu avais été ici, c'est sûr il serait vivant. Combien d'entre vous croyez cela? Si Jésus était ici et qu'il touchait à l'un de vos proches, il le guérirait. Cette femme était une femme de foi. Elle sait que Jésus a un accès incomparable à Dieu. Elle dit au verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle sait que Jésus a un accès particulier au Père. Il a une relation particulière avec Dieu. Elle sait même qu'il est le Messie. Le Messie, c'est ce sauveur qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, un roi qui devait venir s'asseoir sur le trône de David et régner éternellement, un libérateur pour Israël, un sauveur pour le peuple d'Israël. Marthe est convaincue que Jésus est le Messie. Elle fait une déclaration de foi extraordinaire. Au verset 27, elle dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Christos, le Messie, le Sauveur. » Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Tu es l'accomplissement des prophéties. Je crois ça, Seigneur. C'est une femme d'une foi extraordinaire. Et elle croit même que Jésus aura le pouvoir de ressusciter les morts au jour dernier. Parce que Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Ce qu'elle entend à ce moment-là, ce qu'elle comprend à ce moment-là, c'est « Ton frère ressuscitera au jour dernier. » N'aie pas peur, Marthe, tu vas le revoir, ton frère. Il va ressusciter. Elle le croit. Elle est convaincue de ça. Ce n'est pas ça la question pour elle. Elle croit donc que Jésus a le pouvoir, au jour dernier, de ressusciter les morts. C'est une femme qui avait une grande foi. Moi, je pense que cette femme-là avait probablement plus de foi que la majorité d'entre vous ce matin. Qu'il y a plein de gens ici ce matin. Je ne suis pas certain que tout le monde ici aurait pu faire une déclaration de foi semblable sur Jésus. Vous voyez, sa déclaration de foi, c'est qu'il est le Christ, il est le Sauveur des hommes. Sa déclaration de foi, c'est qu'il est capable de guérir, de sauver. Sa déclaration de foi, c'est que lui a un accès particulier auprès de Dieu. Sa déclaration de foi, c'est qu'il va ressusciter les morts au jour dernier. C'est quoi votre déclaration de foi sur Jésus? C'est quoi votre confession de foi par rapport à Jésus? Chrétien, non chrétien, vous avez tous une confession de foi sur Jésus. Certains d'entre vous, vous dites, c'est un charlatan. C'est votre confession de foi? Confession de foi de X sur Jésus-Christ, charlatan. Votre confession de foi. D'autres, vous dites, un personnage fascinant qui mérite, qui vaut la peine qu'on lise ses écrits, qu'on fasse connaissance avec son message, qu'on écoute sa sagesse parce que ça peut nous guider dans la vie. Il peut y avoir quelque chose pour m'aider à tracer mon chemin à moi, mais en écoutant ces grands sages qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Rares sont les gens qui vont lire les évangiles et qui vont les fermer en méprisant la sagesse qu'il y a là. Très rare. Alors peut-être que c'est ça votre confession de foi sur Jésus. Vous dites, Jésus, c'était un autre des grands sages. Peut-être que votre confession de foi sur Jésus, c'est, Jésus, c'est plus qu'un sage. C'est l'un des grands mystiques qui a marqué l'histoire de l'humanité. Comme Mahomet, comme Bouddha, comme Moïse, comme David. C'est un mystique. Hein, on a ça, ce langage-là aujourd'hui. C'est un des grands mystiques qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est une sorte de prophète, comme il y en a eu dans toutes les religions. Et il y a un peu de vérité à l'épuiser dans ce que Jésus a dit. Peut-être que c'est ça, votre confession de foi. Peut-être que votre confession de foi va plus loin que ça. Vous dites, c'est le Fils de Dieu et c'est quelqu'un à honorer. Mais vous avez une confession de foi sur Jésus. Ça, c'est certain. Et je crois qu'il y en a plusieurs ici qui n'avaient pas la foi que cette femme-là avait. Je crois que plusieurs d'entre vous La foi de Marthe était de loin plus grande que la vôtre. Elle avait saisi qui était Christ plus qu'un grand nombre d'entre nous. Mais en même temps, Jésus veut lui révéler beaucoup plus que ça sur lui. Marthe croit que son frère Lazare ressuscitera dans l'éternité. Et c'est évident, elle croit qu'il a le pouvoir de ressusciter. Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Mais Jésus lui dit quelque chose d'étrange ici. Il lui dit, « Marthe, moi, je suis la résurrection et la vie. » Regardez avec moi dans le texte. Au verset 25, verset 24, Marthe dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. » Au jour dernier, au jour de la résurrection, il ressuscitera. Ça va au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Marthe croit que Jésus peut donner la vie. Marthe croit que Jésus peut ressusciter au jour dernier. Jésus n'est pas satisfait de cette déclaration de foi-là. Jésus ne veut pas seulement que Marthe croie en lui pour l'éternité de Lazare. Il veut qu'elle croie en lui ici et maintenant. Il ne veut pas seulement qu'elle croie en lui pour ce qu'il pourrait faire plus tard. Mais il veut qu'elle croie en lui pour ce qu'il peut faire maintenant. Et il lui dit, c'est moi, la résurrection et la vie. Il ne suffit pas de croire que Jésus peut nous donner ce que nous désirons. Il nous faut saisir qui est Jésus-Christ. Il suffit pas de croire que Jésus peut nous rendre heureux, qu'il peut nous aider à vivre en paix, qu'il peut nous aider à avoir une vie agréable. Ce que Jésus veut faire ici, veut nous aider à réaliser que c'est lui qui est la vie. Et que ce que nous devons désirer, c'est pas ce qu'il peut nous donner, c'est lui et sa personne que nous devons désirer. Entrer en communion personnelle avec lui. Voyez-vous, Jésus va opérer un miracle absolument extraordinaire ici. Il va faire quelque chose d'extraordinaire, il va se présenter et il va faire quelque chose qui va émerveiller tout le monde, qui va surprendre les gens, qui va les impressionner. Jésus va ressusciter un mort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Jésus est en train de dire, il y a un miracle plus grand que celui-là que je peux faire encore. Jésus a fait toutes sortes de miracles. Jésus a multiplié des pains, il a nourri des foules, il a guéri des malades. Ici, il ressuscite un mort. Mais c'est une résurrection temporaire que Jésus va offrir à Lazare. Vous réalisez que cet homme-là a eu deux funérailles? Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si à la deuxième, il y a eu autant de monde qui sont venus. Tu te dis, je ne sais pas si je vais y croire cette fois-là. La dernière fois, c'était pas vrai. Non, mais vous comprenez, le miracle que Jésus fait pour Lazare, c'est de ressusciter un corps, de lui redonner la vie en attendant qu'il meure. C'est quand même extraordinaire. Mais Jésus peut faire un plus grand miracle que ça encore. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il y a un miracle plus extraordinaire que Jésus peut faire que de multiplier des pains, que de ressusciter un mort, que de guérir des malades. Alors Jésus s'avance, il s'en va devant le tombeau. Il se tient devant la pierre et puis il dit aux proches, « Roulez la pierre. » Marthe et Marie, les deux sœurs, viennent le voir. Marie lui dit, « Oui, mais Seigneur, ça sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, Seigneur. Ça commence déjà à sentir, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu pourrais ramener cette âme dans ce corps? Il est déjà en putréfaction. » Mais Jésus se tient là devant et ils obéissent. Ils roulent la pierre. Et Jésus, s'adressant aux morts, après avoir prié, crie, « Lazare, sors! » Et vous avez une espèce de personnage qui sort C'est vrai, parce qu'il est tout enguirlandé. J'imagine Lazare qui était couché puis qui était tout pas momifié parce que c'était pas ça la pratique, mais il y avait littéralement des bandes puis qui se réveille. Il entend Jésus qui l'appelle. Il comprend pas ce qui se passe. Jésus dit, enlevez-lui les bandes puis laissez-le aller. C'est un miracle extraordinaire, mais Jésus a un plus grand miracle que ça à donner aux hommes. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a nourri les foules, et à un certain moment donné, il s'est arrêté. Puis il a dit, vous venez me voir parce que je peux vous donner du pain, je vous nourris et c'est pour ça que vous me suivez. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que je suis le pain de vie. Avec une femme qui est en train de puiser de l'eau, Jésus va la voir, commence à parler avec elle. Et ce n'était pas selon la coutume, il est en train de s'adresser à une Samaritaine. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, parlaient à une femme Samaritaine. C'est un petit peu déstabilisant tout ça. Cette femme est en train de puiser de l'eau. Puis à un certain moment donné, Jésus dit à cette femme, si tu bois de cette eau que tu es en train de puiser, tu vas avoir encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je donne, tu n'auras plus soif. Et celui qui boira de l'eau que moi je donne, une source d'eau jaillira de lui jusque dans l'éternité. Jésus dit ici, à travers ce miracle qu'il accomplit, il dit, bien sûr, je peux ressusciter les morts. Bien sûr, je suis capable de donner la vie, mais vous devez saisir que je suis la résurrection et la vie. Jésus ne veut pas que les gens voient ces miracles pour utiliser Dieu comme on utilise couramment Dieu. Voyez-vous, la majorité des gens ont ce rapport avec Dieu. Ceux qui croient en Dieu, la majorité d'entre nous, le rapport qu'on a tendance à avoir avec lui, c'est on fait appel à Dieu quand ça va mal. Moi, je pense que si les gens d'aujourd'hui avaient été présents au moment où Jésus faisait le miracle, je pense que plusieurs d'entre vous, si vous aviez été là, savez-vous ce que vous auriez fait? Tout de suite après, en cachette, vous seriez allé voir Jésus, vous auriez dit, « Je peux-tu prendre ta carte? Je peux-tu prendre ta carte? Parce que ça se peut que je t'appelle. On peut-tu garder contact? » Puis es-tu disponible soit fin de semaine? Es-tu comme des forfaits? On peut-tu s'abonner, même illimité? Parce que je pense que j'aurais besoin de toi. Je pense à un gars qui me doit de l'argent puis qui est décédé, là. Ça pourrait être pratique. La majorité d'entre nous, c'est le genre de rapport qu'on a avec Dieu. Avouons-le. Avouons-le. Tu fais tout ce que tu peux par toi-même dans la vie. Quand tu es arrivé au bout de toi-même, tu te dis, ben, il y a peut-être quelque chose d'autre que moi. Hey, toi, le grand là-haut, peux-tu me sortir du pétrin? Et s'il a le malheur de répondre à notre prière, on l'oublie. S'il a le malheur de répondre à notre prière, on l'oublie. Puis on recommence à avancer par nous-mêmes jusqu'à temps qu'on arrive au bout de nos forces. Plus d'options. Les options humaines ont toutes été épuisées. J'ai essayé toute la sagesse humaine, toutes les ressources humaines, toutes les magouilles que j'étais capable de faire, tous les mensonges pour me sortir du problème. Mais là, je suis au bout de moi-même. Hey, le grand là-haut, est-ce que tu peux me sortir encore une fois? Jésus était là au milieu d'eux et les gens venaient à Jésus exactement de la même manière. Wow, il multiplie les pains. Wow, il guérit les maladies. Wow, il est même capable de ressusciter les morts. T'as-tu un contact avec lui? J'aimerais savoir son numéro de téléphone. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Peut-être que vous avez déjà entendu des chrétiens vous dire que le christianisme, ce n'est pas une religion. On a de la difficulté à expliquer ça parce que, après tout, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous êtes rentré dans un bâtiment. On s'entend que ça n'a pas l'air d'une église comme traditionnellement on les conçoit, mais on a chanté des chants à Dieu, on a lu la Bible. Tu sais, c'est pas une religion, c'est quoi que vous faites? C'est pas un club de golf, on s'entend? Peut-être que vous avez déjà entendu des chrétiens vous dire que le christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation. Et ce qu'on essaie de dire lorsqu'on est en train de dire ça, c'est précisément ce que Jésus est en train de dire ici à Marthe. Il est en train de lui dire, Marthe, t'as pas besoin de mes miracles, t'as besoin de moi. Marthe, tu n'as pas besoin que je règle ton problème temporairement, comme celui de ressusciter ton frère. Tu as besoin de la vie éternelle que je peux déposer en toi. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Celui que j'affranchirai sera libre, véritablement libre du péché. » Jésus peut continuer à être disponible pour régler des problèmes dans ta vie quand tu fais un cold call à Jésus. Quand il y a un pépin, quand tu te pointes à l'église le dimanche de Pâques ou à Noël ou quand ça va mal. Jésus peut continuer à répondre à des cold calls. On l'a tout expérimenté. Tous les chrétiens, on sait qu'il est vraiment gracieux puis il compte pas trop. Tu sais. Il peut continuer à le faire. Mais ce n'est pas le plus grand miracle qu'il peut faire dans ta vie. Ce qu'il peut faire dans ta vie, c'est te donner une vie nouvelle. Voici comment l'apôtre Paul le résume. Plus tard, dans les lettres de Paul, Paul a résumé ce que Jésus est en train de dire ici et ce que Jésus a fait. Et je vais vous lire deux passages très brièvement. Ils vont être affichés ici à l'écran. En fait, c'est un passage dans deux versions. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ, et il est en communion avec le Christ. C'est ça, être en lui. C'est croire en lui et croire que c'est lui qui est la vie. Non pas seulement qu'il peut me donner du pain, répondre à ma prière, mais être mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, ma vie, la source de ma foi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime bien comment la version du Semeur, ça j'ai lu dans la seconde, en français il y a plusieurs traductions à partir du grec et de l'hébreu. Maintenant la version du Semeur, j'aime bien comment elle rend ce verset. Voici ce qui est écrit. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Les Saintes Écritures nous enseignent qu'à partir du moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, non pas seulement comme celui qui nous sort de nos pépins, celui qui répond à nos prières quand on est mal pris, mais celui qui s'est offert en sacrifice pour le salut de notre âme, celui qui peut nous donner la vie éternelle. À partir du moment où je commence à placer ma foi en lui, je découvre qui il est, je découvre qu'il est mon sauveur, la résurrection commence. Parce qu'une vie nouvelle est insufflée en moi. Encore une fois, je parle de choses qui sont étranges pour vous. Elles ne sont pas étranges pour des dizaines de personnes ici dans la salle qui ont vécu la nouvelle naissance. Je sais qu'on a de l'air décapoté. Je sais qu'on a de l'air désauté. Mais j'ai expérimenté personnellement. J'ai vécu personnellement comme des millions de chrétiens sur la terre. Ce moment où Dieu vient dans sa grâce, ouvrir les yeux de ton cœur et tu saisis que Christ est ta résurrection. Tu saisis que Christ est tout et qu'il a tout fait pour ton salut. Et à ce moment-là, une vie nouvelle commence en toi parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu vient faire sa vie en toi à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle ailleurs, Jésus dit, la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau, nous naissons par l'Esprit. Et lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je donnerai, une eau nouvelle jaillira de lui jusque dans l'éternité. » Voyez-vous, mon éternité à moi, avec Dieu, a commencé il y a 22 ans. Et j'ai cette ferme assurance qu'au moment où ce corps périra, en un instant, en une fraction de seconde, je serai dans la présence de Dieu. C'est un acte de foi que je fais. Mais je sais déjà dans ma vie et dans mon cœur, parce que l'Esprit me parle, parce que l'Esprit me transforme, parce que l'Esprit m'a déjà donné cette vie nouvelle, j'ai cette ferme assurance qui est pour moi une certitude que je suis né de nouveau, ressuscité déjà spirituellement, déjà prêt à traverser dans l'éternité. Ma prière pour toi, si ta confession de foi avant de venir ici ce matin, c'était « ouais, Jésus, ce serait quelqu'un à découvrir, ma prière, c'est que tu prennes le temps de le découvrir. Tantôt, j'ai parlé d'un cours dans l'Évangile de Marc. Procure-toi une Bible, viens nous voir, on va t'en donner une. Ouvre les Évangiles. Commence avec Jésus, avec les Évangiles. Viens découvrir qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et commence à découvrir qui est Jésus. Ça va être un personnage qui va te fasciner, mais à un certain moment donné, tu vas dire, ce personnage-là est le centre de l'histoire. Parce qu'il est venu rétablir toute chose. Et c'est plus qu'un homme de sagesse. Ses paroles sont vie. C'est ma prière pour toi. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, un jour, vous êtes passés par la nouvelle naissance, mais qui, pour toutes sortes de raisons, avez commencé à attrister l'Esprit Saint. Cet Esprit qui habite en nous, l'Esprit de Christ qui est là, Jésus dit « Demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous ». Ceux d'entre vous qui, à un certain moment donné, avaient commencé à attrister l'Esprit. L'Esprit vous disait « Marche avec moi, fais-moi confiance, arrête de t'inquiéter. Marche avec foi, c'est moi qui veille. Je suis tout pour toi. » Qu'est-ce que les hommes pourraient te faire? Qu'est-ce que les hommes pourraient t'enlever? De quoi les hommes pourraient te priver? Mais tu as continué à rester dans ta peur. Tu as décidé de retourner à ton ancienne vie. Retourner à d'anciennes idoles, d'anciens péchés. Et tu as vu en toi cette vie surnaturelle se taire tranquillement. En anglais, il y a une expression qui dit « the lifeline ». Pour toi, venir à l'Église, c'est un respirateur artificiel. Chaque dimanche matin, tu viens ici, tu es en paix, les pensées du monde, les distractions sont tassées, ces choses-là se sont écartées, tu viens te brancher sur ton respirateur artificiel. C'est la seule fois que tu respires de la semaine. C'est la seule fois que tu sens l'Esprit te parler. C'est lourd. Un peu d'espoir et on repart. Jésus-Christ est votre vie. Jésus-Christ est votre vie. Je vous demande de revenir à lui. Simplement, revenez à lui. Saisissez la croix, saisissez la grâce et dites à Christ, « Tu es toute ma vie. Peu m'importe le reste. Peu m'importe le reste. » Je termine avec ceci. Lorsqu'on était à la pastorale il y a quelques semaines avec un peu tous les pasteurs du Québec dans notre association, Ken Hughes était notre conférencier. Et à un certain moment donné, il a parlé de l'apôtre Paul. Puis en parlant de l'apôtre Paul, il a dit, cet homme-là est incroyable. Tu ne pouvais pas lui faire du mal. Paul avait Christ et Paul disait, si je meurs, je m'en vais dans la présence de Christ. Si je vis, c'est parce que Christ veut que je continue à le servir sur la terre. Si on me fait du tort, on fait juste ajouter aux souffrances de Christ, je suis juste en communion avec ses souffrances. J'ai appris à être heureux dans l'abondance et dans la pauvreté parce que j'ai tout, j'ai Jésus-Christ. Reviens à lui, il est ressuscité et il a placé cette vie-là en toi si tu es son enfant. Et apprends à être satisfait de Christ. Tu vas vivre ensuite cette vie abondante, je te le dis. Ou à travers les troubles, à travers les épreuves, à travers les épreuves difficiles de la vie, tu vas garder cette paix, cette sérénité qui est celle de la vie de Jésus-Christ en nous. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir. Je veux te bénir, Seigneur, parce que cette vie nouvelle, c'est toi qui la donnes. C'est ça notre espérance, Seigneur, c'est qu'on n'a pas à On n'a pas à faire quoi que ce soit, on n'a pas à paraître de telle ou telle manière, on n'a pas à suivre des lois. Nous n'avons qu'à avoir foi en toi et saisir, Seigneur, ta personne. Jeter notre dévolu sur toi, Seigneur, pour reconnaître que tu as tout accompli, que tu es la résurrection et la vie. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime profondément, Seigneur. Je prends plaisir en toi, Seigneur. Je prends plaisir à grandir en toi, à te laisser grandir en moi afin que je te ressemble de plus en plus, Seigneur. Je prends plaisir à cette vie nouvelle qui, depuis 22 ans, grandit dans mon cœur et dans mon âme, Seigneur. Et Seigneur, j'ai cette assurance dans mon cœur, à cause de ta résurrection, que si aujourd'hui, si dans un instant, si tout à l'heure, Seigneur, tu devais me rappeler, tu me rappellerais à toi. J'ai cette assurance, Seigneur, que si tout à l'heure, des épreuves incroyables devaient me frapper, ce serait sous ta bonne grâce et ta bonne main que je devrais les vivre, Seigneur. J'ai cette assurance, Seigneur, que ton esprit m'accompagne parce que tu es ressuscité d'entre les morts et tu m'as donné cette vie nouvelle. Je te prie, Seigneur, une dernière fois ce matin, je te prie, Seigneur, viens illuminer les yeux de notre cœur pour que nous saisissions ces choses, Seigneur. Tu es vie, tu es résurrection et vie, Jésus. Merci, Père, pour ton Fils. Merci pour ce sacrifice. Sois béni aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons célébrer ce merveilleux mémorial du sacrifice et de la résurrection de Jésus. Amen.